à tous et bienvenue. L'aventurier et écrivain Jean-Louis Etienne nous accompagne aujourd'hui pour nous parler de ses différents projets. Nous visitons aussi un hôtel littéraire à Clermont-Ferrand et enfin nous nous intéressons au rugby féminin qui a le vent en poupe en ce moment. Mais commençons par l'actu de ce vendredi 15 mars. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Tournier, bonjour à tous.
L'attaque contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande a fait des dizaines de victimes.
49 morts et 20 blessés, 3 hommes et une femme ont été interpellés. La surveillance des lieux de culte en France va être renforcée après cette attaque meurtrière.
Avec le décalage horaire, les manifestations mondiales des jeunes pour sauver le climat ont débuté en Océanie et en Asie.
Oui, et elles commencent en Europe. Plus de 200 rassemblements sont prévus en France ce vendredi.
Notre invité ce midi est un médecin, explorateur et auteur de ce livre qui sort aujourd'hui, Oser l'autonomie.
Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour.
Et merci de nous accompagner dans cette première partie de Une heure en France.
On va parler rugby aussi et ça devrait intéresser notre invité natif du Tarn.
Oui, un pays de rugby à la veille du dernier week-end. Destination avec les garçons demain et les filles dimanche face à l'Italie.
Bienvenue à tous dans Une heure en France.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farouf sur France Bleu.
49 personnes ont été tuées pendant la prière du vendredi dans des attaques contre deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch et 20 personnes ont été grièvement blessées.
C'est un témoin qui assistait à la prière qui raconte ce qui s'est passé.
L'imam a commencé à parler et tout était calme comme d'habitude. Tout à coup, les coups de feu ont commencé. Cela a commencé dans la salle principale. Le tireur devait se trouver dans le hall. Moi, j'étais dans une autre salle, donc je n'ai pas vu le tireur. J'ai vu des personnes s'enfuir dans la salle où je me trouvais. Certains avaient du sang et d'autres boitaient. C'est là que j'ai compris la gravité du moment.
Cet acte terroriste est une première en Nouvelle-Zélande dans un pays réputé paisible. La première ministre s'appelle Jacinda Ardern.
Ce qui est arrivé est un acte sans précédent. Beaucoup de ceux qui ont été directement affectés par ces fusillades seraient des migrants, voire même des réfugiés. Ils ont choisi de faire de la Nouvelle-Zélande leur maison, et c'est leur maison. Ils sont nous. Les personnes qui ont perpétré cette violence ne sont pas des nôtres. Ils n'ont aucune place en Nouvelle-Zélande.
Le tireur identifié est présenté par les autorités néo-zélandaises comme un extrémiste de droite australien.
Et la France a annoncé renforcer les lieux de culte après l'attaque aux Antipodes.
Les nappes de pétrole qui dérivent vers les côtes françaises après le naufrage du Grande America avancent à une vitesse de 30 à 35 km/h.
Ce qui veut dire qu'elles seront sur les côtes de Gironde ou de Charente maritime, ou les deux, dans 8 à 10 jours, mais cela peut évoluer encore avec la météo, avec les conséquences que l'on imagine, dit Patrick Picot, le président de France Nature Environnement.
On dit ça n'arrivera plus jamais, et puis voilà, trop tard, c'est encore une fois arrivé, donc on ne sait pas trop dans quelles conditions ce bateau naviguait avec ces produits-là ici dessus. Le résultat, c'est qu'on va avoir encore un tas de cochonneries qui vont arriver sur le littoral. Là, on est sur des zones de production d'huîtres et de moules, c'est assez catastrophique. Donc, on va se préparer à déposer encore une fois les plaintes, mais ce n'est pas une solution. Donc, on est complètement impuissant devant ce genre de catastrophe. Et ça, il y a quand même un souci hein, par rapport au droit international et à la navigation internationale qui nous apporte sur nos côtes alors soit des bateaux poubelles, soit des bateaux qui sont en mauvais état, soit des bateaux avec des déchets ou des produits toxiques. Et là, le littoral va morfler, quoi. On n'était pas en période de tempête, on est sur vraiment des bateaux en mauvais état, de mauvaises conditions de transport de déchets et de cochonneries chimiques.
Patrick Picot avec Arnaud Carré de France Bleu Gironde.
Et une fois de plus, des côtes vont être souillées. Jean-Louis Etienne, ça ne laisse personne indifférent et surtout pas vous.
Non, bien sûr, il faut espérer, la nappe elle se déplace assez lentement. Il faut espérer que les marins qui sont à l'œuvre aujourd'hui, les spécialistes vont pouvoir nettoyer, aspirer le plus possible de manière à ce que la marée noire se limite. Et puis pose la question toujours qui vient d'être évoquée de la solidité des bateaux, l'âge des bateaux, la surveillance des bateaux, parce que des bateaux, il en passe sans arrêt, si vous voulez, depuis que sans arrêt, si vous voulez, ça navigue. Les produits manufacturés sont tous en mer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même une majorité de bateaux qui sont surveillés, qui marchent bien, et de temps en temps, il y en a qui échappent.
On est au cœur de la défense de la planète avec cette mobilisation du jour partout dans le monde pour le climat. Celle des jeunes à l'initiative de la lycéenne suédoise Greta Thunberg.
Des dizaines de rassemblements sont annoncés en France, à Bordeaux, Nantes, Lille, Paris ou encore à Valence, où France Bleu Drôme Ardèche a rencontré Mathéo.
C'est le rôle de l'État de lui mettre en place une réelle politique écologique à lutter pour l'environnement. Ça peut venir des citoyens, hein, c'est nos actions quotidiennes aussi, mais c'est aussi à l'État de faire son travail. Et nous, on est là pour dire à l'État, faites votre travail. On appelle François de Rugy à faire son travail. Enfin, Jean-Michel Blanquer veut du débat. Enfin, on pense que sur ces questions-là, on a déjà les réponses. Et maintenant, les actions du gouvernement sont, pardonnez-moi l'expression, mais un peu anecdotiques. Et on demande des actions drastiques. Pour changer, on a les réponses, les scientifiques nous disent ce qu'il faut faire et on attend que les choses se fassent.
Ça vous inspire quoi, Jean-Louis Etienne, des jeunes qui sèchent les cours aujourd'hui pour défendre le climat ?
Ben, ça prouve que le gène environnemental est en train de se créer, si vous voulez, dans la jeunesse, comme ça. Le climat est un problème complexe. Je pense que c'est pas que dans la rue, effectivement, c'est un signal d'alerte. Et je dirais que chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence dans sa vie personnelle sur ses actions, dans sa vie professionnelle, dans sa vie politique. Et si chacun est efficace, on peut redresser la barre. Ils ont raison.
Et c'est bon signe avec les jeunes. La première phase de consultation du grand débat touche à sa fin. Aujourd'hui et demain commencent les conférences citoyennes.
À Rouen, Lille, Orléans, Marseille, Lyon, Poitiers et Paris, des assemblées constituées d'une centaine de participants tirés au sort.
Et pendant ce temps, les Gilets jaunes préparent un 18e samedi de manifestation.
Ce 16 mars est annoncé comme un rendez-vous clé avec un appel à converger vers Paris pour renouer avec les démonstrations de force des premiers week-ends, alors que le nombre de manifestants a chuté, on le sait, ces dernières semaines.
Des milliers de personnes sont réunies à Alger en ce moment pour demander le départ du président Abdelaziz Bouteflika.
Et la foule ne cesse de grossir, c'est le 4e vendredi de mobilisation en Algérie.
13h07 sur France Bleu, la suite du Nord en France, ce sera avec du rugby à la veille du dernier rendez-vous du tournoi des Six Nations. Et c'est aussi avec le médecin explorateur Jean-Louis Etienne qui est avec nous sur France Bleu. Il a été le premier à atteindre le pôle Nord en solitaire dans les années 80. Il prépare actuellement une exploration de l'océan austral et il sort un livre aujourd'hui qui s'appelle Oser l'autonomie.
On pensait, Jean-Louis Etienne, que vous vouliez raconter l'autonomie nécessaire quand on est seul dans des immensités. Mais non, vous nous parlez de l'autonomie de tous les jours au travail. À la maison, dans nos décisions, oui. Notre autonomie d'opinion. En clair, vous voulez nous apprendre à nous débrouiller tout seul ?
Ben oui, c'est quelque chose que je fais depuis tout petit, qui est consubstantiel à mon lieu de naissance, à ma famille. Je me suis toujours débrouillé tout seul, enfin le plus possible. Vous voyez, je voulais jouer de la guitare, je l'ai construite. vous voyez, j'ai réparé toutes mes mobilettes. Ensuite, j'ai acheté des voitures d'occasion que je réparais parce que les voitures avant pouvaient le faire. Maintenant, elles parlent les voitures, c'est compliqué. Mais donc, j'ai connu le goût, effectivement, et je pense tout le temps, qu'est-ce que je peux faire déjà par moi-même? C'est toujours un réflexe que j'ai, et je me rends compte que ça me donne une certaine liberté.
Vous, Jean-Louis Etienne, ça vous a toujours concerné? Est-ce que vous trouvez que les autres, dans la vie, en règle générale, ne le sont pas assez autonomes?
Mais non, on attend toujours la promesse de quelque chose qui vient d'ailleurs. Le capital, il est en soi. On a un énorme capital. Vous savez, j'ai écrit un livre dont le sous-titre, c'était « On ne repousse pas ses limites, on les découvre ». On est fait de choses que l'on ignore de soi. Et donc, en attendant tout le temps que ça vienne de l'extérieur, on perd de cette autonomie-là.
Oui, mais enfin, tout le monde n'est pas à l'aise de ses 10 doigts pour construire une cabane, pour construire une guitare. Ah ben oui, mais...
Oui, c'est vrai que c'est ce qui m'a donné souvent de l'insouciance. Moi, je savais, vous avez raison. Je sais, j'ai toujours su qu'avec mes 10 doigts, je pouvais construire une cabane, comme vous dites, avoir un jardin, des poules et voir venir. Et mes enfants me disent, tu nous dis toujours, il faut voir venir. Alors je leur dis, pour ça, il faut se faire des outils. C'est pas forcément que des outils qu'on utilise à la main.
Bien sûr.
Alors ce qui est intéressant, c'est que vous parlez aussi de l'autonomie vis-à-vis du passé. Il faut apprendre à tourner les pages, parce que sinon, on n'avance pas.
Oui, alors, c'est vrai que j'ai beaucoup déménagé, mais j'avais peu de choses. Et à un moment donné, je me suis installé un petit peu plus longtemps, j'ai accumulé. À un moment donné, j'ai dû déménager dans un truc plus petit. Et là, je me suis retrouvé confronté avec la masse de choses que l'on accumule. Qu'est-ce qu'elle représente?
Et alors?
Et alors, que je m'en suis débarrassé.
Ah oui, carrément?
Oui. Je m'en suis débarrassé, j'ai gardé quelques choses essentielles qui sont chargées de mémoire. Mais d'une manière générale, on projette beaucoup d'affect sur les choses qui ne sont que des bouts de bois ou du papier.
C'est vrai.
Et surtout, j'ai voulu éviter que mes enfants se trouvent confrontés à cette situation. Quand je vais disparaître, papa aimait ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le garde? Oh non, il dit tenez beaucoup. Donc je ne veux pas emmerder la suite, si vous voulez, avec des choses qui souvent ne servent à rien.
Alors, quand je parlais d'autonomie au quotidien, ça va très loin. Il y a aussi l'autonomie de son corps. On ne maîtrise pas tout. Vous citez François Mitterrand qui disait « Comment peut-on expliquer que l'on a 20 ans dans sa tête alors que le corps nous lâche ?»
Ben oui, mais ça c'est un état d'esprit, vous voyez. Un état d'esprit de créateur. Les hommes politiques sont souvent créatifs. Ils sont toujours en action. Moi, je fais des projets depuis toujours. J'ai l'impression que c'est ce qui me tient alerte, on va dire, quoi. Et mes enfants me disent « Papa, t'es vieux ». Je dis « Non, je suis jeune depuis plus longtemps que toi ». Je crois qu'il faut s'engager dans les choses que l'on aime. Il faut ne pas hésiter à abandonner des fois des choses que l'on a acquises pour se lancer dans des nouvelles explorations. La vie est pleine de rebonds, il faut le prendre. On voit qu'il y a des gens qui changent d'orientation.
Le secret, c'est d'avoir toujours des projets, finalement.
Oui, c'est intéressant d'avoir des projets. C'est pas forcément des projets complexes. Ce sont pas aussi des projets qui demandent de la passion. Moi, on me dit, tu as la passion, c'est facile. Mais non, je dis, la passion, c'est comme le feu. Si tu mets pas des bûches, ça s'arrête. Donc, c'est quelque chose qu'il faut entretenir.
Oui. Vous avez déjà des projets pour la suite. Quand vous aurez fait votre expé,
Oui. Ça, c'est une cathédrale. Ça, c'est un gros truc. J'en ai en ressources. Ils vont émerger, mais d'abord, ma concentration, c'est sur PolarPod.
Alors, PolarPod, justement, parlez-nous de ce projet incroyable. A priori, il y a de l'avancement, puisque vous avez eu la Commission centrale des navires qui vient de valider le projet.
Ouais.
Ça sera installé en 2021 pour une mission de 3 ans. C'est pour inspecter les eaux australes.
Étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. Là, on parle du pôle sud. C'est un immense continent de glace. Et autour, il y a un courant qui fait le tour que les marins appellent les 50e hurlants. Vous voyez, c'est une zone qui est loin, il y a très peu de missions et toutes les publications se terminent, on a besoin de mesures in situ, ça veut dire on a besoin d'y aller. Et donc avec un bureau d'études de l'Orient, on a créé PolarPod qui est un grand tube, un grand bouchon, un grand flotteur qui fait 100 mètres de haut, qui fait 1000 tonnes et qui va rester très très stable dans la grosse mer. Il va être autonome, entraîné par le courant, le moteur c'est le courant. Et l'électricité, c'est le vent.
Et quand je parlais de projet après PolarPod, parce que vous dites j'aurai 76 ou 78, je ne me rappelle plus précisément.
Moi non plus.
Vous allez enfin écrire des romans, vous remettre au piano, etc.
Oui, j'y suis toujours un peu au piano. Le roman, je trouve ça extraordinaire parce que c'est une expédition, peu importe, c'est une appellation. On s'invente une histoire chez soi, devant son ordinateur. On n'a pas besoin de trouver des financements, des autorisations, des administratifs, du juridique tout d'un coup. Et donc, je trouve ça, l'idée d'un roman me plaît beaucoup dans le futur.
Jean-Louis Etienne, vous restez avec nous. On va également parler de votre région, le Tarn, à suivre dans Une Heure en France.
Oui, le temps de rappeler. Oser l'autonomie chez Rustica Éditions. C'est sorti ce matin, je crois bien.
Oui.
Ouais, et c'est signé Jean-Louis Etienne.
On passe au sport. Il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe. Le dernier en lice, le Stade Rennais, fait sortir hier soir par Arsenal. C'était en 8e de finale de l'Europa League.
Oui, la victoire 3-1 à l'aller n'a pas suffi. Les Rennais ont perdu 3-0 hier soir à Londres après un beau parcours tout de même.
On connaît les quarts de finale de la Ligue des Champions sans club français. Donc.
Oui, c'est pas la peine de le rappeler à chaque fois.
Vas-y.
Ajax d'Amsterdam, Juventus de Turin, Liverpool Porto, Tottenham Manchester City et Manchester United Barcelone.
Et la Ligue 1 remet ça ce soir avec deux rencontres, Nice-Toulouse et Lille-Monaco. Le tournoi Destination se termine ce week-end avec Italie-France, une occasion de gagner un deuxième match cet hiver.
Le 15 de France masculin qui est un peu au fond du trou en ce moment joue demain samedi. Le 15 féminin qui a le vent en poupe joue dimanche avec un public de plus en plus nombreux devant la télé.
Et avec au commentaire la consultante Laura Dimuzio qui sera avec nous tout à l'heure aussi pour nous parler de l'évolution du rugby chez les filles.
On a retrouvé le premier commentaire du premier match de rugby féminin en région parisienne il y a une cinquantaine d'années. Autre temps, autre mœurs, accrochez-vous.
Si vous n'en croyez pas vos yeux en suivant ce match de rugby, sachez qu'il n'y a aucun trucage. Il s'agit bien de la première partie de rugby féminin dans la région parisienne. Voilà bien la démonstration que le rugby, c'est aussi un jeu de fillettes. Mais quelles fillettes ? Des jeunes filles difficiles à plaquer, des feintes, des débordements et un punch à essouffler bien des garçons.
On a découvert ce matin dans le Parisien Week-end que vous êtes un ancien demi de mêlée de Castres, Jean-Louis Etienne.
Oui, j'étais demi de mêlée au Castres Olympique, mais en junior B, junior A, puis j'ai eu un problème de santé, j'ai dû m'arrêter, ça a été une catastrophe pour moi. J'aimais tellement ce sport. J'en ai gardé une frustration.
Ouais. Ah, il paraît que vous avez mis longtemps avant de pouvoir regarder à nouveau des matchs de rugby.
Mais vous avez raison. Pendant longtemps, je ne pouvais plus regarder les matchs de rugby. J'étais tellement nostalgique de ce sport. Et maintenant, bah, demain, je regarderai le match. J'ai tout annulé l'après-midi pour essayer de soutenir l'équipe.
Avant le déplacement à Rome des filles et des garçons, donc ce week-end, on sera à Lille avec la joueuse consultante Laura Di Musio. Avant une virée dans le Tarn avec notre invité Jean-Louis Etienne.
Et aussi à Clermont-Ferrand pour découvrir un hôtel littéraire. Voilà la météo du jour.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.